si riche en enseignements. Nous avons ainsi pu méditer sur le prophète Agée, qui nous encourageait à mettre Dieu à la première place dans nos vies. Et non notre propre personne, nos besoins, notre recherche des biens de ce monde. Nous avons étudié Malachie et nous avons pu nous rappeler que Dieu a conclu une alliance avec nous. Alliance qui n'est pas de notre propre volonté, mais qui est selon la volonté de Dieu, selon l'amour qu'il a pour nous. Ce matin, je vous propose de relire ensemble le prophète Habacuc. Qui a déjà lu son livre ? Voilà. Donc, vous pourrez le relire tout au long de la semaine. On ne va pas le lire en entier, parce qu'il y a 3 chapitres. Et juste la lecture des chapitres prendrait le temps de la prédication. Mais nous allons nous laisser interpeller par son message. Alors d'habitude, on se penche sur le contexte dans lequel un texte a été écrit, sur le contexte dans lequel l'auteur vivait, comment Dieu l'a poussé à écrire une prophétie. Rien de tout cela ce matin. D'abord parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur ce prophète, et puis rien sur sa vie, sur l'époque durant laquelle il aurait écrit son texte, et les différentes recherches qui ont été faites à ce sujet donnent des résultats contradictoires. Les commentateurs ne se mettent pas d'accord, donc ce n'est pas la peine d'entrer dans la polémique. Mais ce texte est écrit sous une forme particulière et qui nous interpelle, parce que c'est un dialogue, un ensemble de questions ou d'accusations adressées à Dieu par Habacuc, les réponses que Dieu lui apporte, et ça se termine par un psaume de la part du prophète envers Dieu. Alors voyageons à travers ce texte ce matin, parce qu'il est tellement pertinent pour notre époque, bien qu'écrit dans des temps anciens. Alors, des questions. Habacuc pose des questions. Il interroge Dieu sur la violence et l'injustice qui existent autour de lui. Il accuse Dieu d'y être indifférent. À cause de cette attitude, ce sont les méchants qui prospèrent et le droit est bafoué. Si nous lisons les versets 2 à 4 du chapitre 1, nous le comprenons. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Ensuite, dans les versets 12 à 17, l'auteur reprend sa complainte sur l'attitude de Dieu, le fait de laisser le peuple élu être asservi à un peuple impie et cruel. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? » Lisons-nous au verset 13. Ces questions ne sont-elles pas les questions les plus actuelles que les êtres humains peuvent se poser sur le sens de la vie ? On entend assez souvent des femmes et des hommes déclarer que si Dieu existait, il ne permettrait pas que. C'est tout à fait ce qu'Habacuc a reproché à Dieu. Lorsqu'on lit ces déclarations, tu n'écoutes pas. Tu ne secours pas, tu contemples l'injustice. Est-ce que cela veut dire que ça ne te touche même pas, Seigneur ? Chacun voudrait voir la paix régner sur terre, les violents être jugés, supprimés. La violence est là sous nos yeux et Dieu ne répond pas. C'est le cri d'angoisse d'une personne se trouvant en présence d'un problème jusqu'ici insoluble pour elle. Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Comment semble-t-il oublier les siens sans défense au milieu de tout cet appareil de la méchanceté humaine ? Alors, lorsque nous commençons à nous poser ces questions, les réponses que nous attendons sont selon la justice humaine, la pensée humaine. La douleur nous fait souffrir, alors nous voulons que la douleur disparaisse. Le deuil nous fait souffrir, alors nous voulons que le deuil disparaisse. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, pour un parent de la perte d'un enfant. Ainsi, en ce début d'année, un drame atroce, horrible, inimaginable et insupportable a eu lieu en Suisse. Vous comprenez sans doute que je parle de ces 40 personnes, jeunes personnes, qui sont décédées dans l'incendie d'un bar alors qu'elles fêtaient le nouvel an. Qui parmi nous n'a pas eu cette pensée que c'est trop injuste, que Dieu ne devrait pas permettre cela en entendant l'annonce de cette terrible nouvelle ? Nous pouvons penser à des exemples qui nous sont plus proches. Pourquoi tel enfant meurt-il du cancer ? Pourquoi telle jeune sœur ne peut-elle pas enfanter et souffre dans son âme et son cœur ? Pourquoi Dieu n'entend-il pas mes prières pour mon enfant qui avance vers la délinquance ? Pourquoi sommes-nous sur terre si c'est pour souffrir sans arrêt ? Je ne connais pas toutes vos circonstances. Je sais que parmi nous, certains souffrent malgré leur engagement pour Dieu, leur prière sincère, leur soumission à sa volonté. Alors je prendrai mon exemple personnel. Pourquoi mon beau-frère est-il mort à 55 ans d'un cancer alors qu'il servait Dieu avec amour ? Pourquoi mon frère a-t-il été victime d'une maladie orpheline qu'il a laissé 10 ans comme un légume avant qu'il ne décède d'une crise cardiaque à 50 ans, laissant une veuve et un orphelin de 10 ans qui n'avait toujours connu qu'un papa malade ? Pourquoi ma maman est-elle venue totalement dépendante suite à un AVC alors qu'elle avait toute sa vie la hantise de finir comme une petite vieille qui doit dépendre de tous ? Oui, nous tous, nous pouvons faire monter nos questions vers Dieu, pensant à juste titre lui demander de rendre des comptes. C'est ce qu'a fait Habacuc, parce qu'il avait une relation étroite avec Dieu. Mais ces questions ne sont pas formulées dans un état d'esprit vindicatif. Il s'épanche devant Dieu comme on le ferait devant un ami. Il explique son incompréhension, sachant que Dieu répond toujours. Et c'est bien ce qui se passe. Dieu apporte des réponses. En effet, dans ce dialogue particulier, Dieu répond à Habacuc, mais ses réponses sont vraiment surprenantes. En tout cas, sa première intervention a de quoi étonner le lecteur. Alors qu'Habacuc demande à Dieu pourquoi il laisse faire les méchants, Dieu déclare qu'il va envoyer plus méchants encore. Puisque la violence règne au milieu du peuple que Dieu s'est choisi, il ne va pas essayer de séparer le bon grain et l'ivraie. Ça serait une solution toute humaine qui correspond bien aux attentes de nos esprits logiques et cartésiens. Punir seulement celui qui a fauté. Mais savons-nous vraiment qui se comporte mal devant Dieu ? Connaissons-nous intimement chacune des personnes que nous côtoyons jour après jour ? Comment pouvons-nous juger que tel doit être puni et pas tel autre ? Sur quels critères nous basons-nous ? Dieu qui est souverain, lui, le Créateur, connaît bien tout cela. Plutôt que de faire des coupes chirurgicales, vous savez, ôter au plus près ce qui est malade, enlever un méchant et pas un autre. Plutôt donc que d'essayer de régler la situation au cas par cas, ce que nous avons, nous, tendance à vouloir faire. Il va soigner le mal par le mal. Et je n'ai pas recopié tous les versets, mais il va faire venir un peuple féroce et déchaîné, terrible et redoutable, dit-il au chapitre 1, les versets 6 et 7. Donc ce peuple déchaîné, ce sont les Babyloniens. Alors, attention, j'ai parlé des souffrances que nous pouvons vivre. N'allons pas penser que Dieu nous fait souffrir encore davantage parce que nous serions méchants ou mauvais. Ce n'est pas mon propos ce matin. S'il en était ainsi, nous aurions le droit d'être désespérés. Mais ce que je voudrais souligner dans la réponse de Dieu, c'est la surprise qu'elle apporte. Nous le savons, le livre du prophète Habacuc nous le confirme, Dieu ne répond pas toujours de la façon dont on s'y attend, de la façon dont on le souhaiterait. Et là encore, je peux donner des exemples dans ma propre vie, même si je n'aime pas m'étaler sur les choses qui ont été difficiles. Parce que Hervé et moi, nous avons reçu tellement de bénédictions depuis que nous avons décidé de laisser Dieu diriger nos vies. Mais par exemple, lorsque j'ai été la cible de harcèlement de la part du responsable de notre mission au Cameroun, j'ai prié. Nous avons prié des jours, des semaines, des mois durant pour faire cesser cette situation. Que Dieu fasse valoir ma bonne foi et qu'il dévoile les brimades dont j'étais l'objet. Mais comme dans la situation que nous lisons dans Habacuc, c'est comme si Dieu rajoutait encore et encore à ma souffrance. Et finalement, nous avons dû quitter le Cameroun, mais cet homme, lui, il est resté en poste. Comment comprendre ? J'ai mis des mois avant de reprendre le dessus. J'étais vraiment en dépression. Revenu en France, nous avons connu encore bien des difficultés avant qu'Hervé ne soit recruté à un emploi qui correspondait au don que Dieu a mis en lui. Je continuais à douter, je ne comprenais pas. Nous voulions faire le bien, servir Dieu et aider les autres. Et pendant plusieurs années, c'était tout le contraire qui se passait. Mais pourtant, Dieu a exaucé nos prières, pas comme nous le souhaitions. Nous sommes finalement installés à Strasbourg. Dieu a redonné un sens à notre vie et nous avons pu recommencer à le servir. Mais surtout, ce que nous avons compris, c'est que Dieu avait besoin que nous soyons à Strasbourg à ce moment-là pour venir au secours de notre fille et de notre nièce qui ont connu des situations de vie compliquées. Dieu nous a montré qu'il nous avait mis là pour que nous soyons leur secours de sa part. Et nous n'aurions pas pu le faire à 6000 km de distance. Alors, dans la suite de sa réponse, Dieu révèle à Habacuc que le peuple violent sera lui aussi châtié. Il va avoir pour mission d'ébranler les Israélites pour qu'ils reviennent de leur mauvais comportement, mais Dieu n'ignore pas les péchés de ce peuple. Et la Bible Sommer met en évidence 5 catégories dans le chapitre 2 d'Habacuc. Alors il est dit « Malheur aux accapareurs, ceux qui profitent et qui prennent tout pour eux. Malheur aux malhonnêtes qui nous font prendre des vessies pour des lanternes, qui nous trompent. Malheur aux violents. » Et nous voyons bien toute la violence qui existe dans ce monde. On n'a pas besoin de connaître les Babyloniens à l'époque. Notre monde est plein de violence. Malheur à ceux qui enivrent leurs prochains, qui leur font boire des substances qui les empoisonnent. Et notre monde encore regorge de ces personnes qui vendent de la drogue, qui promeuvent l'alcool à outrance. Malheur aux idolâtres. Oui, le peuple babylonien était aussi rempli d'idolâtrie et de culte des faux prophètes. Non, Dieu affirme qu'il ne laissera pas le mal impuni. Habacuc peut lui faire confiance et s'attendre à lui. Et le verset 14 en est une triomphante affirmation. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est vraiment réjouissant et rassurant de lire ça au milieu des violences qui sont décrites dans le livre du prophète Habacuc. Et c'est un encouragement pour nous parce qu'au fond de notre détresse, nous pouvons nous tourner vers Dieu et être sûrs et certains qu'il connaît tous les détails de nos situations et qu'il agira de la meilleure façon. Et ce livre d'Habacuc n'est pas un livre désespéré, parce que c'est un livre où nous pouvons lire ce verset « Le juste vivra grâce à sa foi ». Je pense que ce verset, cette phrase résonne en vous parce que vous l'avez déjà lu à plusieurs reprises dans vos Bibles. C'est déroutant parce que c'est vraiment placé au milieu de toutes les affirmations où Dieu dit qu'il va détruire, qu'il va juger, qu'il va condamner, qu'il va débarrasser le monde de tous ses péchés identifiés au milieu des hommes sur terre. Il demande que Habacuc rédige la vision parce qu'elle est certaine, mais nous lisons que le juste vivra grâce à sa foi. Alors, quelle pensée étrange au milieu de ce chaos. Et cela nous amène à réfléchir et à nous positionner devant Dieu. Qu'est-ce que nous voulons privilégier dans nos vies? Les circonstances? Regarder à ces circonstances? Ou bien privilégier la ferme assurance que tout est entre les mains de notre Seigneur et que nous pouvons nous reposer sur lui. Et je vous ai dit que peut-être que cette phrase résonne en vous parce que vous l'avez déjà lue plusieurs fois dans vos Bibles. C'est l'apôtre Paul qui va reprendre cette affirmation plusieurs fois dans ses enseignements. Tout d'abord, dans Romains, au chapitre 1, les versets 16 et 17, nous avons cette affirmation. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est cette citation, ces versets, qui servent de fondement à la doctrine de la justification par la foi que Paul établit dans l'Épître aux Romains. Mais aussi, en Galates 3, le verset 11, Paul oppose la loi et la foi, démontrant que la loi n'est pas le vrai fondement du salut. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et enfin, en Hébreux 10, au verset 38, Paul reprend cette citation en la complétant par une constatation. « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui ». Paul nous encourage ici à persévérer dans notre foi, à ne pas nous laisser décourager par les circonstances. Si nous nous arrêtons en chemin, quelle portée aura notre foi devant Dieu? Notre Seigneur lui-même nous a encouragés à vivre en ayant foi que Dieu prend soin de nous jour après jour. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Nous lisons ça en Matthieu 6, les versets 25 à 30. Oui, avant de mourir pour nos péchés à la croix, Jésus nous a expliqué quelle sorte de foi nous devons laisser vivre, croître en nous. Cette foi confiante, triomphante, vivante, qui nous permet de croire en toutes circonstances que notre vie est précieuse pour Dieu et que si nous vivons, c'est pour manifester sa gloire. Nous pouvons en témoigner avec force et hardiesse. Nous avons foi que Dieu veut le meilleur pour nous. Ce ne sont pas les circonstances qui décident de ce qui est bon ou pas. C'est Dieu qui agit dans son amour pour nous. Cela ne signifie pas que tout ce que nous vivons, tout ce que nous possédons est toujours 100% au top, selon notre conception de la vie. Cela signifie que nous acceptons que c'est Dieu qui agit et que c'est lui qui décide de sa réponse à nos prières. Notre vie, notre témoignage, nos paroles, nos exhortations envers ceux qui nous entourent leur permettront de découvrir que Dieu ne s'est pas trompé, que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il est le maître de l'univers et prend soin d'eux malgré les circonstances. Et Erwan Kloarek, dans son édito des cahiers de l'école pastorale du deuxième trimestre 2025, a écrit « Oui, Christ est la réponse à apporter à ceux qui, dans l'obscurité, cherchent comme à tâtons. » Cet amour que Dieu a pour nous, qu'il a manifesté en envoyant son Fils pour nous sauver, cette foi dans le salut acquis à la croix, cette foi qui nous fait vivre, nous l'avons proclamée à travers nos louanges ce matin. Mais est-ce que nous en avons retenu les paroles? Alors, je vous ai écrit les différents chants avec la référence dans le « J'aime ». Comme ça, vous pourrez aller retrouver les paroles de ces chants pour bien vous en imprégner. Rappelez-vous, nous avons chanté « Entrons dans ce lieu, entends mon cœur, il est exalté. Comment te dire merci, mon Dieu, par quel amour est infiniment grand ». Sommes-nous convaincus de ce que les paroles de ces chants proclament? Ou bien les avons-nous chantés machinalement, par habitude, parce que nous aimons bien leur mélodie, parce que les autres autour de nous chantaient, parce que le groupe de louanges avait une bonne technique et qualité musicale pour nous entraîner? Ou bien est-ce que nous les avons chantés parce qu'ils proclamaient les vérités de la voix, de la foi qui nous anime et qui nous fait vivre? Dans son livre sur les petits prophètes, dont je vous ai déjà parlé, Francis Bellet conclut son étude du livre d'Habacuc par ces mots. La grande leçon de ce livre, osons tout dire à Dieu, dans le désir de connaître sa pensée pour nous et pour les autres. Ne regardons pas seulement à ce qui se voit, mais écoutons sa parole et attendons la délivrance qui viendra sûrement. Elle ne tardera pas. Croyons, car c'est vrai, bien vrai, le juste vivra par la foi. Et parce qu'Habacuc était ce juste qui vivait par sa foi, il a pu terminer son livre par un magnifique psaume, une prière de confiance adressée à Dieu. Il reconnaît la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Il reconnaît que ce qui est annoncé peut être signe d'épouvante pour celui qui ne connaît pas l'éclat de la magnificence de Dieu et il conclut en ces termes. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Alors que cette conclusion d'Habacuc, la certitude que notre salut, notre joie, notre foi dépendent de Dieu et non des circonstances, puisse nous accompagner tout au long de cette semaine, mais surtout tout au long de nos vies. Prions. Oui, Seigneur, nous le reconnaissons et